Bonjour et bienvenue pour ce dernier épisode de la saison 1 de Jason Pédagogie Numérique. Pour ce dernier numéro, j'ai décidé de partager avec vous l'entretien que j'ai eu en octobre 2021 avec Laurence Capu, qui est professeure en informatique à l'Université de Laval et dont les recherches portent sur l'application des techniques d'intelligence artificielle dans le domaine de l'éducation. On va parler de systèmes tutoriels intelligents, d'environnement numérique d'apprentissage, d'intelligence artificielle et de logiciels libres. Autant de sujets afin de mieux comprendre les outils qui peuvent nous permettre d'améliorer notre enseignement. Alors, je vous souhaite de passer un formidable été et bonne écoute. Très bien. Donc, bonjour Laurence. Je suis vraiment ravie de vous rencontrer aujourd'hui. C'est ça. Je vais vous laisser vous présenter et puis je pourrais vous poser ma petite question rituelle.
Eh bien, moi je suis professeure en informatique à l'Université Laval depuis 2002. Je travaille surtout en utilisant l'intelligence artificielle appliquée au monde de l'éducation, disons, au système informatique qu'on utilise en éducation. J'ai commencé avec ma thèse à m'intéresser au domaine de l'éducation, comment on faisait pour apprendre. Je pense que c'est quelque chose qui m'a pas mal intéressée et je voulais en savoir plus. Donc, j'ai essayé de me former aussi, puisque moi aussi, en enseignant à l'université, ce qu'on n'apprend pas quand on fait une thèse, on n'apprend pas à enseigner, mais moi, ça m'a intéressé de comprendre un petit peu les enjeux qu'il y avait à enseigner, puis au niveau de l'apprentissage, quels étaient les défis. Et ensuite, donc, je me suis intéressée aux applications qui sont utilisées en informatique, puis surtout en intelligence artificielle. Donc, je me suis intéressée d'abord au système tuteur intelligent.
Les systèmes tuteurs intelligents, c'est quoi exactement ça?
C'est des systèmes qu'on utilise plutôt lorsqu'on fait de la formation individuelle. Les premiers systèmes qui ont été mis au point, on se disait on voudrait essayer de remplacer. J'aime pas trop le terme remplacer parce qu'on remplace pas vraiment un humain avec une machine, mais en fait on voulait pouvoir pallier justement un manque si on avait. Est-ce qu'on pouvait faire? Parce que la machine pouvait accompagner une personne qui apprend, donc on s'est intéressé justement aux différentes étapes par rapport à un sujet particulier. Au niveau de l'évaluation, on s'intéresse à l'évaluation de ce que fait notre apprenant, puis de savoir comment la séquence à prévoir et tout ça. Donc c'était des systèmes qui sont pas beaucoup utilisés parce que c'est très difficile en fait à mettre en œuvre. Donc pas si évident. C'est toujours plutôt adapté à un domaine en particulier. Puis il faut des domaines aussi qui soient bien définis. Souvent on les utilise pour la résolution de problèmes. Mm-hmm. Comme en mathématiques, c'est assez facile de pouvoir déterminer quelles sont les étapes de la résolution de problèmes. Donc pouvoir évaluer ce qu'a fait l'apprenant, l'accompagner aux besoins s'il y a des erreurs, etc. Mais bon, c'était les premiers systèmes.
Quelle année à peu près, Laurence, cette réflexion puis cette intégration des systèmes intelligents justement dans la résolution de problèmes, comme on parle des maths, ça correspond à quelle époque?
C'était plutôt les années 1990. C'est la période où je me suis intéressée. Donc c'est quelque chose qu'on voulait, qui a donné aussi des pistes de solutions qu'on a pu après ensuite reprendre dans différents aspects. Puis ensuite pour arriver aujourd'hui, moi je me suis toujours intéressée à cette idée de personnaliser l'outil pour aider nos apprenants.
Mm-hmm. Laurent, c'est vraiment intéressant parce que je comprends que déjà dans les années 90, vous vous intéressiez au système intelligent, à la manière dont on pouvait personnaliser, en tout cas utiliser l'outil informatique et le personnaliser pour pouvoir. Je comprends que c'était pas remplacer, mais
apporter en fait faciliter ou on va dire augmenter les possibilités d'apprentissage. Mais qu'est-ce qui a fait que, alors que l'informatique était en boom, vous êtes plus dirigé? Et puis ça, c'est ma question rituelle. J'aime bien connaître vraiment le parcours en fait de professionnel de l'apprentissage. Comment vous en êtes arrivé à là? Pourquoi? Parce que à partir du moment où l'informatique est devenue un grand boom à cette époque, il y a plusieurs en fait profils de personnes qui sont plus parties dans le domaine du développement de produits ou dans le milieu de la banque. Ou qu'est-ce qui a fait qu'il y avait cet attrait à l'apprentissage? Est-ce que c'était le fait que vous enseigniez déjà?
Moi, c'est un petit peu les deux ont été comme, je dirais, j'ai commencé à enseigner. En fait, je me suis rendu compte que j'aimais ça enseigner, j'aimais ça être avec des étudiants puis leur puis les accompagner dans cette démarche, et je crois que c'est ça qui a fait que j'ai eu le goût. Je me suis dit, je veux en savoir plus, je veux comprendre un petit peu comment on apprend, quels sont les différents aspects puis les défis. Donc je me suis c'est les deux ont été liés dans ma recherche, et puis le fait que je commençais à apprendre, à enseigner, accompagner les étudiants. Donc déjà quand j'étais étudiante en thèse, j'étais assistante d'enseignement. Donc là, je me suis dit, comment je pourrais mieux les aider? Puis après, quand j'ai commencé à enseigner, je me dis, je veux ça.
Mais c'est super intéressant, et ce qui m'interpelle aussi, c'est qu'on parle de personnaliser les outils, on parle de système intelligent, puis vous avez mentionné l'époque des années 90, puis là on est en 2021, et on s'est retrouvé dans une situation qui a commencé en 2020 de pandémie, et puis là le système en fait de l'éducation a dû repenser sa manière de pouvoir faciliter le développement de compétences. Qu'est-ce qui s'est passé entre les années 90 et 2021, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les systèmes intelligents, c'est quelque chose qu'on perçoit comme quelque chose de nouveau, puis la personnalisation des outils ou l'adaptation des outils numériques aux pratiques de l'enseignement? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Ou qu'est-ce qu'on devrait mieux faire? Ça fait beaucoup de questions, ça.
Oui, c'est ça. Mais je veux dire, dans les années 90, encore, l'intelligence artificielle, du moins les techniques étaient développées, c'était beaucoup développé au niveau académique. Moi, quand je parlais, je disais, je fais de la recherche en intelligence artificielle, personne ne savait de quoi je parlais. Maintenant, tout le monde sait de quoi on parle, et on pas complètement, là, parce qu'il y a beaucoup de choses en intelligence artificielle, il y a beaucoup d'éléments, d'approches, on en voit juste une partie. Et en fait, il y avait certaines applications plus larges, certaines industries qui commençaient à utiliser l'intelligence artificielle de manière plus systématique, mais c'était encore réservé à des secteurs très particuliers et tout ça. Puis, en fait, il y a eu une augmentation, je veux dire, la puissance des ordinateurs a fait que c'est très développé. Puis là, il y a des choses qu'on n'était pas capable de faire avant, notamment au niveau des techniques d'apprentissage automatique. On entend parler actuellement. Il y a des techniques qui étaient développées depuis très, très longtemps, mais en fait, elles n'étaient pas, on pouvait pas les utiliser de manière courante. C'était impossible. Donc, ça a fait que ça a fait un boom au niveau de ces techniques-là qui sont passées maintenant. Maintenant, on en retrouve partout. On s'en rend pas compte, mais il y en a partout. Les techniques se sont disséminées en fait dans les différentes applications. Au niveau de l'éducation, de l'enseignement, éducation au sens large. En fait, ce sont les plateformes d'apprentissage qu'on connaît actuellement, comme par exemple Moodle, qui est une plateforme qui est disponible, qui est du domaine libre, qu'on peut prendre gratuitement, qu'on peut installer, qu'on peut modifier. Puis on a des plateformes comme Google Classroom qui sont gratuites, mais qui ne sont pas libres. compte.
Oui.
Donc, bon, ça, c'est tout ça, ce sont ces plateformes-là, en fait, au départ, il n'y avait pas vraiment d'intelligence, de technique d'intelligence artificielle qui était inscrite là. On a plutôt, on a misé sur un développement par outils. On a dit, on va intégrer différents outils que les enseignants utilisaient déjà, certains utilisaient de manière isolée, puis on a tout mis au même, dans un même espace pour que ça soit plus facile. Voilà. Et ce sont ces plateformes qui sont devenues dominantes, je dirais. C'est le modèle dominant qui a été utilisé en éducation. Et maintenant, on se rend compte que ben, peut-être qu'on pourrait intégrer des techniques d'intelligence artificielle parce qu'on se rend compte que c'est pas des plateformes, il n'y a pas de personnalisation, il n'y a pas d'adaptation dans le sens où tout le monde a le même, les étudiants ont tous la même chose. On n'a pas quelque chose de personnalisé, mm-hmm. ce qu'on voulait faire avec les systèmes tuteurs intelligents où là vraiment on avait un modèle, on représentait en fait ce qu'on connaissait, ce qu'on pouvait connaître de notre apprenant et on essayait de l'accompagner dans ce sens, dans ces plateformes. Tout le monde se connecte, tout le monde a la même chose.
Oui, c'est ça. Mais dans ces environnements numériques d'apprentissage qui seraient augmentés par des systèmes en fait intelligents de personnalisation de l'apprentissage, quelle est la place surtout de l'enseignant en fait ou du professionnel accompagnateur dans cette boucle? Parce que quand on jusqu'à présent, on parlait des années 90, on voit que le positionnement de l'enseignant a quand même un peu glissé de la position de l'enseignant transfert des connaissances à l'apprenant qui est en fait au centre même de son apprentissage, à maintenant l'apprenant au centre de son apprentissage et la plateforme qui lui permet en fait d'avoir une adaptation, une personnalisation de la manière dont il apprend. Et la question qu'on se pose et qui peut faire peur pour beaucoup d'enseignants qui ont eu en fait une éducation assez traditionnelle. Moi, je sais ça. Moi, je suis une enfant des années 80. C'est vrai que j'ai toujours vu en fait l'enseignant comme celui qui avait tout le savoir. Si je compare maintenant à mes enfants ou même moi quand j'enseignais à l'université où mes étudiants étaient directement avec leur tablette pour vérifier les dates, etc. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de défis. Mais quelle est la position que l'enseignant peut prendre si on fait appelle en fait à un système qui va s'adapter exactement aux besoins de l'apprenant? Est-ce que c'est trop peut-être qu'est-ce que je prends des raccourcis? Est-ce que
oui. Ben en tout cas moi je suis pas une spécialiste des sciences de l'éducation, c'est certain, mais je pense pas que l'outil va remplacer l'enseignant. Bon, c'est sûr qu'on peut faire des formations où il n'y a pas d'intervenant, où il y a une formation
autoportante.
Mais on peut pas faire ça pour tout le monde, pour tout le télécontexte, ça fonctionnera pas. Ça peut être fait pour certains besoins particuliers. En tout cas, moi, l'apprentissage, c'est aussi une question humaine. Il y a l'humain dedans. Donc dire je peux remplacer, la plateforme va remplacer, on va pouvoir remplacer tous les enseignants, moi je n'y crois pas.
Oui, moi aussi en fait, j'ai posé la question parce que je sais que c'est toujours cette question. J'ai lu un article récemment où c'était l'intelligence artificielle qui va remplacer les enseignants, puis j'essaye un peu de dire que la place de l'enseignant est peut-être différente et va justement, l'intelligence artificielle va lui permettre de se concentrer sur sa créativité, plus que sur un transfert de connaissances et se balader en encyclopédie humaine.
Exactement, je pense que c'est plus dans ces aspects-là. Et puis, après, dire qu'on va pouvoir répondre à tous les besoins aussi des apprenants, je vois pas encore comment on pourrait faire ça. Et puis, est-ce que c'est aussi la question, est-ce que c'est ce qu'on veut? Oui. Est-ce que c'est ce qu'on veut?
C'est ça.
Parce que la relation enseignant-apprenant est quand même quelque chose de très important pour la vie, pour donc pour la construction de la personne. Donc me dit aussi est-ce qu'on veut vraiment ça. Alors pour des contextes, je suis d'accord que pour des contextes particuliers, on pourrait avoir des formations sans enseignant. Mais là, ça demande aussi une énorme autonomie de la personne qui apprend.
Ce qui est pas donné à tous les niveaux de l'éducation. Voilà. Et c'est sûr que cette interface humaine est très très importante de toute façon dans la confiance, dans l'engagement, etc. Comment à ce moment-là? Qu'est-ce qui serait intéressant de savoir dans ce qui est possible de faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui dans le contexte, alors aujourd'hui à large, pas nécessairement qu'au Québec ou au Canada, mais qu'est-ce qui se fait aujourd'hui dans l'usage en fait des systèmes intelligents, puis cette personnalisation des parcours? Est-ce qu'il y a des choses qui nous échappent, qui se font assez couramment dans le système, dans les systèmes éducatifs, mais qu'on n'a pas encore ici? Qu'est-ce qui se passe un peu dans le milieu?
Mais c'est sûr qu'il y a des choses qui se font. Il y a de la, on peut essayer de comprendre, en fait, de comprendre, je mets ça entre guillemets, parce que comprendre, en fait, on peut analyser comment se comporte notre apprenant, puis adapter, lui offrir, je sais pas, comme pourrait avoir des systèmes qui vont choisir des objets d'apprentissage différents suivant les façons d'apprendre qui sont différentes d'une personne à une autre. Il y en a qui vont apprendre plus vite, il y en a qui donc moins vite. On peut réguler le rythme d'apprentissage. Il y a des choses, on peut essayer aussi de d'analyser le comportement, en fait, ce qu'on faisait au niveau des tuteurs intelligents. Il y a des choses qui se font déjà sur les plateformes d'apprentissage où on va collecter, on va essayer d'analyser les données, puis essayer de s'en servir pour peut-être conseiller notre apprenant, quelque chose comme ça. Mais bon, c'est encore au niveau de ces plateformes, il y aurait beaucoup de choses à faire. On va essayer aussi, par exemple, tout ce qui est formation en ligne, essayer d'analyser, de comprendre pourquoi une personne est en échec. Est-ce qu'on peut prévenir l'échec ou l'abandon, s'il y a beaucoup d'abandon?
Oui. Il y a encore beaucoup d'analyse, puis de la compréhension des données pour pouvoir en fait mieux adapter le système. Donc on n'en est pas encore arrivé à aux jumeaux numériques, on imaginait. Alors moi qui suis dans la veille, c'est sûr que j'avais fait une présentation à l'époque sur les jumeaux numériques et on imaginait un futur de l'éducation avec un jumeau numérique.
Le défi, en fait, c'est qu'on le faisait dans les tuteurs intelligents, c'était un peu l'idée où on voulait accompagner notre apprenant. On peut l'accompagner de différentes façons. Est-ce qu'il est plus expert? Est-ce que c'est un père? Et puis l'accompagne différemment suivant les personnalités ou les moments de l'apprentissage. Mais le défi, c'est lorsqu'on est sur une grande plateforme où on a plusieurs apprenants, oui. Est-ce qu'on peut reproduire en fait ce modèle-là sur ces plateformes? C'est tout un défi. Puis on regarde aussi la tendance qui vient certainement de l'analyse des données qu'on fait sur les sites commerciaux, par exemple, oui. Où on analyse les comportements des consommateurs. On analyse le comportement d'un consommateur, mais on analyse aussi le comportement du consommateur par rapport aux autres consommateurs. Oui. On essaye d'établir des profils, des catégories de profils, je dirais, puis on essaye de prendre ces informations pour suggérer par exemple des nouveaux produits à oui. notre consommateur. Hein, on aime bien catégoriser en tant qu'être humain.
Oui, c'est ça.
Donc c'est quelque chose qu'on essaye de reproduire aussi avec l'apprentissage, parce que c'est ça le défi, c'est que faire un tuteur pour un apprenant, on s'intéresse juste à son apprenant, c'est une chose, mais lorsqu'on a une plateforme où on a beaucoup d'apprenants, mais c'est pas, les défis sont pas les mêmes.
Oui, c'est ça, effectivement. Mais alors, dans tout ça, comment Laurence, vous percevez un peu alors le futur de l'éducation actuellement? Si vous aviez une boule de cristal.
Je n'ai pas de boule de cristal.
Mais c'est ça, on n'a pas de boule de cristal, donc c'est difficile de savoir. Mais comment vous sentez un peu l'environnement? Est-ce qu'on va vers selon vous, bien sûr, hein, est-ce que on commence à aller dans la bonne direction, ou est-ce que pour vous, vous êtes dans l'engouement de vous dire enfin il y a quelque chose qui est en train de se faire de tout le travail qui a été fait depuis les années 90?
Mais il y a des bonnes choses, c'est certain, il y a des bonnes choses. Après, dire que on va dans la bonne direction, je pense qu'on pourrait aller vers de meilleures directions.
C'est ça. Mais quels sont les dangers actuellement? Parce qu'on n'en a pas trop parlé. Est-ce que danger il y a? Danger, débordement. Danger, ça fait peut-être un peu trop... Moi, je vois du rouge, là, on se braque. Mais est-ce qu'il y a des débordements, des choses qu'il faut envisager et auxquelles il faut faire attention dans l'usage de ces technologies?
Ben, c'est sûr que ces technologies, c'est un outil. C'est un outil comme les autres outils, comme le crayon et le papier, c'est un outil. Donc, je pense qu'il faut savoir les intégrer de manière, tu sais, considérer toujours que ce sont des outils. C'est pas magique.
Oui.
Des fois, moi, je trouve que il y a des personnes qui considèrent l'intelligence artificielle comme de la magie, un petit peu, là. Il n'y a rien de magique, hein, c'est de la technologie. Puis, moi, j'ai toujours considéré ça comme dire c'est un outil pour aider l'être humain, mais c'est pas à l'être humain à s'adapter à l'outil. Donc, c'est vraiment important de pouvoir offrir quelque chose qui va régler un problème. Donc, de bien identifier le problème et puis de trouver est-ce que je peux proposer quelque chose qui va aider. Après, de dire oh, ben, ça va régler tous les problèmes, c'est comme dans la vie courante. Est-ce pas la technologie qui va régler qui va sauver le monde?
Oui, c'est sûr. Ben oui, tout à fait d'accord. Mais et dans vos projets actuels, qu'est-ce qui se passe un peu peut-être avec d'autres continents, qu'est-ce qui se passe dans le milieu de l'éducation et...
Ben, puisque vous parlez d'autres continents, moi j'ai un projet avec deux chercheurs, un chercheur du Sénégal et un chercheur du Burkina Faso, où on a obtenu un financement des fonds de recherche du Québec avec l'Association des universités francophones.
L'AUF, c'est ça?
Oui, l'AUF. Oui, les campus africains, eux, ils ont pas connu le même développement que nous, là. Mm-hmm. Donc, ils ont intégré les plateformes. En général, c'est Moodle, puisque c'est un logiciel qui est accessible. Donc, ils utilisent Moodle, mais ils se rendent compte, en fait, que ça correspond pas du tout à leur contexte, autant pour les étudiants que pour les enseignants. Ça marche pas. C'est utilisé, mais pas au plein potentiel. Donc, eux, ils avaient des besoins. Ils ont dit, on pourrait faire autre chose, y aller différemment. Donc, moi, je suis là pour les conseiller. J'essaye de pas leur dire, vous devez faire comme ça, parce que je pense que c'est très important de pouvoir garder, de pouvoir trouver leur propre solution qui correspond à leur contexte. Parce qu'on le sait, c'est des pays qu'on considère comme pauvres ont tendance à prendre nos outils qu'on utilise en Occident. Est-ce que c'est vraiment les meilleurs outils pour eux? Donc, c'est important de pouvoir s'approprier la technologie et répondre à leurs besoins réels. Donc, c'est dans ce sens que le projet est fait. Puis, moi, je les accompagne, leur parler de ce que nous, on fait, de ce qu'on, nos défis à nous, les problèmes qu'on a rencontrés aussi pour essayer de pas produire.
Mais c'est intéressant parce qu'en fait on se rend compte dans justement cette collaboration que vous aviez avec des chercheurs africains que ce que vous mentionnez sur le développement d'outils dans un contexte occidental qui ne correspond pas nécessairement, il n'y a pas d'universalisation de la manière dont on appréhende en fait les outils numériques. C'est vrai que ça, je me suis rendu compte de ça à Hong Kong où j'ai vécu 7 ans. C'est sûr que revenir en fait dans un contexte occidental au Québec m'a permis vraiment de noter que on n'a pas du tout la même manière selon les différents endroits dans le monde de conceptualiser en fait l'outil. Et c'est vrai que les pays qui sont en voie de développement ou considérés dans un développement qui se fait rapidement mais encore un peu en arrière, ils ont tendance à prendre ce qui se passe en Occident comme ah c'est ce qu'il faut faire. Mais souvent c'est pas le cas. Je sais qu'en Asie, c'est pour ça qu'en Asie c'est un monde qui est complètement différent et ils s'inspirent bien sûr de ce qui se passe autour, mais ils créent leur propre manière de faire, ce qui s'adapte à leur contexte. Et je suis contente de savoir que ça se passe aussi dans des pays d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique en général. C'est ça. Qu'est-ce que cette collaboration elle vous apporte, vous, au niveau du Québec? Notamment, il me semble qu'on avait parlé de la question de... Vous aviez mentionné l'idée de la gouvernance, en fait, il me semble.
Oui, mais c'est effectivement, c'est ça. C'est que on doit pouvoir, en fait, chaque contexte... quand vous parlez d'uniformisation, en fait, des outils, mais c'est pas... Chacun a son propre contexte et devrait pouvoir... s'accaparer en fait la technologie et l'adapter à son... On revient toujours à cette idée que c'est l'outil qui doit s'adapter et pas l'humain qui doit s'adapter. Donc si ces pays-là qui n'ont pas eu un développement de la technologie prennent des outils, en fait ils sont obligés de s'adapter à ce fonctionnement de ces outils. Alors de là de recréer ou de prendre des outils et les modifier pour qu'ils puissent les adapter à leur contexte, ça c'est de la vraie gouvernance, c'est leur propre gouvernance, créer leurs propres outils, leur propre façon de faire. Donc ça c'est très important. Puis en particulier comme les logiciels libres, c'est intéressant parce qu'on peut les adapter justement comme on veut, alors que les outils, puis je privilégie cet aspect-là parce que on l'a vu, bon, la dernière année, c'est sûr que tout le monde a été pressé par ce qui se passait, par la situation, donc on a pris les outils qui étaient disponibles. Mais les outils qui sont gratuits ne sont pas nécessairement, sont pas adaptés nécessairement à notre contexte.
C'est ça. Mais je suis contente de vous entendre dire ça. Mon collègue Alexandre Ankerly, qui est justement très très axé, puis qui développe des expertises en fait dans le domaine du libre. C'est ça. On échangeait et c'est sûr que pour quelqu'un comme moi qui suis très intuitive, souvent je vais être tendue par me dire quelle est la bonne pratique. Et la bonne pratique serait d'utiliser du libre. Mais souvent je fais face en fait à des difficultés d'appropriation de l'outil. Donc j'ai tendance à aller vers quelque chose qui va répondre à ma demande et à mon besoin assez rapidement. Je me dis que si je dois passer des semaines à comprendre un outil pour ensuite après pouvoir l'utiliser, moi ça me fait perdre du temps dans mon travail. Et je pense que il y a beaucoup de startups ou de compagnies qui développent des logiciels ou des applications parce qu'ils sont conscients que mon expertise à moi est en pédagogie. Pas nécessairement dans le domaine de l'informatique, etc. Donc, facilite ma vie pour que je puisse me concentrer sur mon expertise. C'est vrai que les logiciels libres, c'est pas facile. Ils sont pas tous comme ça. D'ailleurs, ils tendent apparemment à être de plus en plus intuitifs.
Tout à fait. En fait, c'est parce que le problème, on le prend différemment. De toute façon, lorsqu'on utilise un logiciel, il y a toujours une étape d'apprentissage. Il faut toujours le faire. Même pour moi qui suis en informatique, ça me prend un temps. Si je veux utiliser un nouveau logiciel, il me faut un temps d'apprentissage.
Mais Laurence, vous avez une patience d'informaticienne.
Pas nécessairement. Il y a beaucoup d'outils qui pourraient... En fait, on utilise... Moi, je pense qu'on n'utilise pas toujours toutes les fonctionnalités. peut-être dans certains cas, mais on n'utilise pas toujours ces fonctionnalités, donc on pourrait aller vers quelque chose de plus simple comme outil. Mais ce que l'importance du logiciel libre par rapport à un logiciel propriétaire, même s'il est gratuit, c'est que ben, finalement, on ne sait pas ce qu'il peut devenir. Mm-hmm. Je perds le contrôle total de l'utilisation. Très bien, ça fonctionne, tout ça. Puis un jour, pouf, ça peut arrêter. Peut très bien, le propriétaire du logiciel peut décider de le supprimer ou de le changer. Puis là, ça répond plus à mes besoins. Mm-hmm. Puis là, on sait très bien qu'il y a de la collecte de données. On le sait avec les réseaux sociaux qu'on utilise, qui sont gratuits. Qu'il y a de la collecte de données, puis là on commence à se poser la question de la vie privée, est-ce que nos données sont vendues, qu'est-ce qu'on en fait, puis là on est dans un contexte d'éducation, là ce sont des jeunes, des enfants qui peuvent se connecter dans ces logiciels, et que fait-on des données? Que fait le propriétaire du logiciel de ces données-là? Ne me dites pas qu'il n'en fait rien, puisque c'est gratuit, oui. Il faut qu'il en fasse quelque chose.
Mais oui!
Donc, moi, je trouve que ça serait bien aussi, si on utilisait plus de logiciels libres, les données qu'on peut collecter, elles pourraient servir au monde académique. On pourrait créer une expertise, puis les startups, là, pourraient utiliser un modèle économique en apportant justement l'aide pour pouvoir travailler avec ces outils libres. On pourrait très bien avoir, quand on parle de gouvernance aussi, c'est ça aussi, pouvoir avoir notre propre expertise et oui. Pouvoir la contrôler aussi ce qui se passe avec ces logiciels. Donc, ouais, c'est tout un vaste sujet.
Ouais, oui, mais c'est important et je pense que ça donne effectivement à réfléchir et à comprendre le pourquoi on devrait peut-être prendre un peu plus de temps pour s'approprier en fait l'outil, parce que ça vaut le coup effectivement, notamment dans le domaine de l'éducation. C'est d'autant plus important que cette question des données et de l'usage de données privées fournies à des entreprises privées dérange vraiment. Puis c'est en ça où il faut qu'on travaille un peu plus fort sur la question. Mais Laurence, on arrive déjà à la fin de notre rencontre et j'ai encore 1000 questions à vous poser. Merci beaucoup.
Nous avons l'occasion d'en
mais
reparler.
Oui, je pense qu'on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Et puis on n'a pas encore fini de parler d'intelligence artificielle, comme vous aviez mentionné tout à l'heure. L'intelligence artificielle, c'est des multitudes de domaines. Je pense que on est conscient, on va dire, de la partie émergente de l'iceberg, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Puis on va se rencontrer très bientôt. En tout cas, très bientôt. Je pense aux prochaines sessions pour continuer à parler d'intelligence artificielle et d'éducation. Merci
beaucoup.
Avec
plaisir.
À très bientôt, Laurence. Au revoir.
Merci. À très bientôt.